CFM Lacaune, le mag.
Bonjour à toutes et à tous sur CFM Radio, CFM Lacaune. Aujourd'hui, nourrir les oiseaux en hiver, c'est le nom de la conférence à la salle communale d'Espéros ce vendredi 10 novembre à 20h30. Une animation proposée par le parc naturel régional du Haut-Languedoc en partenariat avec la commune d'Espéros. Cette conférence va présenter les différents types de mangeoires et d'aliments proposés aux oiseaux en hiver. Une conférence animée par Peyre Touy, notamment animateur des activités de l'Université pour tous du Tarn et passeur environnemental. En tout cas, c'est un petit peu l'affiche de la conférence qui vous présente comme ça. Bonjour Peyre Touy.
Bonjour.
Une rapide présentation de votre parcours, ce qui vous a amené à vous intéresser à ces questions environnementales et à animer ce genre de conférence.
Oh, ben ça remonte sûrement à l'enfance, hein. Un héritage del papete. Ensuite, mes études m'ont amené à me perfectionner, on va dire, dans le domaine de la biologie et particulièrement de la zoologie. Et ensuite, j'ai pris conscience que les êtres vivants sont dans un paysage, qu'il y a aussi des humains et donc... De professeur de sciences naturelles, je me suis fait aussi professeur d'occitan, puisque c'est la langue de notre environnement qui a versé le pays pendant plus de 10 siècles. Et donc, petit à petit, je me suis mis dans le domaine des oiseaux, mais pas uniquement scientifique, c'est-à-dire sur le côté aussi ethnologique, et... Donc, je bague les oiseaux, je suis bagueur du muséum depuis presque 60 ans, ce qui ne me rajeunit pas, bien sûr, mais j'ai accumulé donc quand même pas mal de données, d'expériences, de vécu. Voilà. Ensuite, je me suis penché sur l'alimentation des oiseaux et particulièrement le régime alimentaire des rapaces, et donc ça m'a permis de faire pas mal de publications sur les micro-mammifères, c'est-à-dire les campagnols, les rats, les mulots, enfin, etc., toute la faune de mammifères qui sort plutôt la nuit et qui fait le régal des rapaces.
Alors, au cours de cette conférence de ce vendredi à Espéros, vous allez vous pencher donc cette fois sur les comportements humains, hein, également, leurs influences auprès des populations d'oiseaux. En l'occurrence, donc, les conséquences des mangeoires et aliments pour ces oiseaux en hiver. C'est pas si sûr que ce soit une bonne chose. Donc, enfin, en tout cas, je vous laisse un petit peu nous l'expliquer.
Ça, c'est... Comment dire... Il y a toutes sortes d'approches, quoi, en fait... Déjà dans le choix des aliments, dans la fréquentation, selon la région où on se situe, et ensuite, c'est comme pour les humains, c'est-à-dire qu'on peut voir la chose sous différents angles. Il y a des gens qui sont critiques par rapport à cette mode, parce qu'il faut bien dire que pendant... longtemps, ce n'était pas une... comment dire... Si les gens nourrissaient des oiseaux, c'était pour les capturer ou les manger, enfin, bon, voilà. Tandis que maintenant, c'est pour les aider, mais en fait, ça correspond à une compensation, c'est-à-dire la disparition de certains milieux, de certaines sources alimentaires font que... Voilà, les gens se sont penchés un peu sur la question. Maintenant, il est bien évident qu'à partir du moment où il y a un intérêt, le commerce s'y greffe dessus. Et voilà, ensuite, ça dérive parfois, quoi.
Oui.
Donc, en fait, moi, comme je bague autour des mangeoires depuis plus de 20 ans, donc ça m'a permis de connaître un peu les stratégies des oiseaux par rapport à cette nouvelle source qui est facile, quoi, pour eux. Facile, mais pas sans danger, puisque, bon, il y a des... Ça entraîne... Ça peut en aider certains, mais ça peut aussi leur jouer de mauvais tours.
Ouais, notamment sur la question des concentrations, peut-être, en tout cas, de population d'oiseaux à certains endroits, c'est ça peut-être
le... Voilà. De toute façon, c'est pour toutes les espèces pareil, y compris humaines. C'est-à-dire que des concentrations engendrent des problèmes, voilà. On le voit avec les élevages dits industriels. Donc on voit des maladies se propager... Et en fait, pour les oiseaux, c'est un peu pareil. On crée des concentrations, donc automatiquement, les prédateurs, on va dire, s'y greffent dessus. Parce que on revient toujours au même, à la même loi de la nature, c'est-à-dire la facilité. Donc, à partir du moment où c'est facile, ça marche quoi. Le problème donc de l'attirance des prédateurs, mais il y a aussi... si on crée des concentrations, ben les oiseaux y mangent, mais certaines espèces mangent et caguent au même endroit. Donc, si cette concentration dure plusieurs semaines, voire plusieurs mois, il est bien évident que le climat aidant, ça peut faire de bons bouillons de culture qui sont préjudiciables, notamment à cause des salmonelles qui peuvent se développer. Et ça entraîne parfois des mortalités importantes quoi, chez les oiseaux.
Et donc, notamment sur comment vous avez procédé, Peyrotoui, donc vous le disiez là il y a quelques instants, notamment sur les bagages voilà, de ces populations d'oiseaux, c'est en partie, enfin, essentiellement, ce qui vous a permis de tirer ces conclusions, ces observations, en tout cas voilà, sur ces populations.
Ben, c'est-à-dire que j'ai un peu maillé le territoire, c'est-à-dire... au départ, j'avais une trentaine de sites, donc, en hiver, ce qui m'a permis de, donc, jour, j'effectuais des séances de bagages régulières, et ça m'a permis de comprendre un peu ce que faisaient les oiseaux, en fait, là, bon, tout dépend des espèces, mais les fringilles, notamment, c'est-à-dire chardonnerets, pinsons, verdiers, tarins, ne sont pas inféodés à une mangeoire, mais à des mangeoires, et comme... Le phénomène de nourrissage s'est répandu, ben, les oiseaux se déplacent, effectuant parfois des rondes d'une trentaine de kilomètres, hein, c'est-à-dire, bon, ils font la tournée des restaurants, on va dire. Mais donc, s'il y a par exemple des cas de salmonellose qui peuvent être donc transmissibles aux autres espèces aviaires, il est bien évident que le fait de tourner voilà, entraîne une dispersion des agents pathogènes. Voilà.
Oui. Alors comment va se dérouler cette conférence? Est-ce qu'il y aura différents chapitres peut-être et surtout peut-être un temps d'échange aussi, j'imagine, après
oui. Bien sûr, oui. Non, mais moi, je porte ma paire à Clapaz, hein, c'est-à-dire j'amène ma pierre à l'édifice, c'est tout. Hein. Je partage mon expérience. Voilà. Mais oui, dans un premier temps, j'aborde les différents modes de nourrissage et ensuite les espèces qui fréquentent le plus ces mangeoires. Hein, c'est toujours lié au type de nourriture présentée, bien sûr. Et ensuite, donc, les questions... les stratégies donc des oiseaux par rapport à ça et ensuite les problèmes voilà que l'on peut se poser donc ensuite on va dire c'est la philosophie de chacun qui les oriente dans telle ou telle pratique ou dans telle parce qu'il y a des gens qui sont contre le nourrissage donc en disant c'est artificiel ça les coupe de leur environnement mais bon. À la fois, si on donne, par exemple, des graines de tournesol, ben, si quelqu'un sème du tournesol et fait un champ, ça revient à peu près au même. Disons que la période de nourrissage, est bien sûr, n'est pas la même. Mais sinon, après, en termes de pardon, de nourriture, c'est pareil. Après, il y a des gens qui disent eh bien, il faut pas nourrir toute l'année. Après, comment dire, c'est un peu comme nous, si on nous présente toujours la même source de nourriture, il est bien évident. évident qu'au bout d'un moment, on en aura marre et on va chercher ailleurs. Hein. Donc, les oiseaux font un peu pareil, c'est-à-dire en été, par exemple, si on leur présente du tournesol, bon, mais ils ont plutôt envie d'aller rechercher des larves ou d'autres sources de nourriture, peut-être et sûrement même plus parfaites, on va dire.
Et ça reste finalement un débat assez ouvert. Là, vous n'avez pas forcément, en tout cas, l'intention de tirer des conclusions définitives sur ce qu'il faut faire ou pas faire, en tout cas.
Disons que c'est toujours pareil. L'homme est un peu, on va dire, égocentrique. Hein. Donc, si les gens nourrissent, bon, d'accord, ils se donnent bonne conscience en disant on aide les oiseaux, mais c'est quand même aussi en grande partie pour satisfaire leur. Soit leur curiosité, soit leur satisfaction de voir des oiseaux en liberté, de voir des couleurs, de voir des mouvements, enfin, voilà. Donc il y a des gens qui mettent par exemple des mangeoires près de fenêtres, ce qui fait que c'est aussi pas forcément bon pour les oiseaux dans la mesure où il y a des heurts sur les vitres, quoi, donc...
Et en même temps, c'est vrai que par exemple, alors là on est sur l'hiver hein, pour votre conférence, mais c'est vrai que sur les grosses chaleurs l'été, par rapport bon, aussi à l'impact du climat, qui est aussi généré par l'homme, voilà, on peut comprendre une volonté de compensation peut-être du grand public ou de passionnés peut-être pour les oiseaux, de d'éviter des surmortalités par exemple, dues à la chaleur l'été par exemple.
Ben, c'est sûr que le réchauffement pose des problèmes aussi bien aux espèces animales que végétales. Et donc, on assiste, mais c'est pas nouveau. C'est-à-dire qu'on assiste depuis au moins les années 1970 à peu près, donc des modifications des aires de nidification, des oiseaux, d'hivernage. Alors, on ne sait pas trop, hein, c'est-à-dire... Il y a des individus, des espèces qui étendent leur aire de répartition vers le sud, d'autres au contraire vers le nord. On n'a pas, on a des constats, mais peu d'explications quand même, hein, rationnelles. Donc, c'est-à-dire que si on prend les tourneaux, bon, mais la limite sud de nidification en 69, c'était Cahors, la limite sud en 70, c'était Montauban, et etc. Et puis maintenant, il dit que, voilà. Alors, c'est peut-être, on en est au stade des hypothèses, c'est peut-être dû aux modifications dans le domaine de l'agriculture ou de l'élevage, voilà. Donc, mais inversement, on a donc des espèces qui reculent, qui remontent vers le nord, de plus en plus, voilà. Il y a aussi le phénomène des ondes qui, on ne sait pas trop, mais on constate des aberrations, quoi, parce qu'un oiseau est quand même relativement fidèle à son lieu d'hivernage et à son lieu de nidification, quoi. Il n'y a pas que les hirondelles, quoi, qui reviennent nicher au même endroit. Et donc, ça pose, toutes ces modifications, on va dire, entraînent des modifications, des stratégies différentes, donc on a des oiseaux qui ne vont plus migrer, puisque la migration représente quand même un risque, un risque, on va dire, augmenté pour la survie de l'oiseau. Et donc, on a des oiseaux qui migrent moins, dans la mesure où ils ont, notamment en hiver, on a des espèces qui ne vont plus jusqu'au Maroc. Enfin, c'est valable pour les espèces, surtout, qui restaient dans le domaine circum-méditerranéen. Mais on a des espèces donc qui restent sur place parce qu'ils ont la nourriture à porter. Voilà.
Et les moindres migrations, là aussi, sur les impacts sur les populations d'oiseaux, il y a des conséquences à ça, peut-être le fait que ces espèces migrent moins.
Oui, mais il y a aussi le fait que, je sais pas comment dire, c'est l'absence de plus en plus l'artificialisation grandissante des sols, que ce soit avec des autoroutes ou avec du bâti, voilà, ça entraîne la suppression de haltes migratoires qui sont extrêmement importantes donc, pour la plupart des espèces. Et cette réduction, voilà, plus les traitements, tous azimuts, que ce soit des graines, que ce soit anti-moustiques, que ce soit, etc. Donc la diminution de la ressource alimentaire, notamment pour certains insectivores, fait que leur population est... Sans compter que beaucoup d'espèces passent quelques mois chez nous, mais vont passer quelques mois aussi sur le continent africain. Et donc on a de plus en plus en Afrique des traitements aériens, donc de soit contre les criquets, soit contre bref, des ennemis, on va dire, entre guillemets, des végétaux. Et donc, voilà, on a des quantités d'oiseaux qui meurent comme ça sous les traitements, que ce soit du parathion ou des choses comme ça.
Alors, si on veut un petit peu approfondir ses connaissances sur vos travaux, Pays Retouilly, les thématiques aussi que vous proposez, il y a des ouvrages peut-être à retrouver, comment les retrouver peut-être justement ?
Je ne publie plus tellement. Je ne publie plus tellement parce que je préfère faire discuter avec les gens, faire des conférences avec des... Si on publie, on a affaire à un public plutôt universitaire et de chercheurs, mais très intéressant. Et je ne le renie pas, ni même j'ai toujours des échanges fructueux avec d'autres chercheurs. Mais je préfère, c'est ma nature, discuter, essayer d'aider ou de conforter ou de d'accompagner en tout cas les gens de terrain. Voilà.
Alors, pour les infos pratiques, notamment sur cette conférence, je le rappelle, de ce vendredi 10 novembre à 20h30, elle se tiendra à la salle communale d'Espéros. Vous pouvez bien sûr aussi vous rendre pour toutes les infos pratiques sur le site internet du parc, le www.parc-o-languedoc.fr. Merci Pays Retouilly pour votre disponibilité ce matin sur CFM Radio et sur CFM Lacon. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne conférence donc ce vendredi à Espéros.